comme on vous l'a dit au tout début de notre réunion, mon intention serait que si des questions pouvaient être posées, ça serait l'occasion peut-être de reprendre des deux côtés qui ont été évoqués à l'instant. Et par conséquent, je invite le public à avoir le courage, parce qu'il faut toujours avoir du courage pour poser des questions. Donc je vous invite de surmonter la timidité et puis d'essayer de dire quelque chose. De ne pas vous laisser quand même tout à fait comme ça. Il y a dans une phrase d'une lettre, Heidegger dit « La plupart du temps, nous parlons trop, mais il arrive aussi que nous parlions trop peu. » Ce que j'aimerais beaucoup, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que dans la discussion qui pourrait avoir lieu, nous arrivions ensemble à parler assez. Alors, je suis vraiment tout oui, nous sommes tous les trois tout oui, à propos des questions.
Je voudrais justement poser une question au niveau de la traduction, puisque là, on a affaire avec la correspondance à une double trahison. Trahison d'abord, parce que la correspondance n'est pas adressée au public, c'est une première trahison. Trahison parce que c'est une traduction de l'allemand en français. Donc, on a une double métaphore, en quelque sorte, une double trahison. Pour se sortir de cette trahison, on a eu un exposé qui essayait de nous ramener le rapport d'Heidegger à l'histoire. L'histoire étant un fait établi qui permettrait de fixer ce glissement métaphorique dans une réalité. Et on voit bien que cette réalité elle-même s'échappe avec l'histoire du renard. Donc moi, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que la traduction de la correspondance peut amener ou pas par rapport à ce point de fuite, à ce point d'énigme qui constamment échapperait et qui fait de Heidegger un si grand penseur dans un si petit homme. Et ça aussi, c'est déjà une trahison.
Bien. Alors je vais essayer de dire un peu quelque chose en consonance à ce que vous dites. Première remarque, vous dites Heidegger est un petit homme. Vous avez entièrement raison, il mesurait 1m63.
C'est Georges Steiner.
Non mais il mesurait 1m63. Je me demande si on peut dire d'une manière aussi, de opposer d'une manière aussi claire un si grand penseur et un si petit homme. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, qui m'intéresse énormément. Vous avez dit, cette correspondance, nous ne devrions pas pouvoir la lire. En effet, je crois... Madame Ursula Lutz, qui a édité la correspondance, le souligne dans sa postface. Cette correspondance n'était évidemment pas prévue pour être gardée et pour être un jour publiée. Et nous sommes dans une situation tout à fait étrange. Grâce à Hannah Arendt, il y a les traces de cette correspondance. Et comme le disait très très justement il y a peu de temps Alain Finkielkraut, nous sommes dans une situation tout à fait curieuse, c'est que nous sommes en principe dans une situation de voyeur, et curieusement, la correspondance ne donne rien de scandaleux à voir. Et ça, c'est encore quelque chose de très étrange dans cette correspondance, et c'est pourquoi je vais reprendre ce qu'a dit Pascal David tout à l'heure. Cette correspondance est très profondément extraordinaire. C'est pourquoi je ne peux pas abonder dans votre sens et parler ici de trahison. Il y a dans le... Non, j'exagère beaucoup. Mais il y a dans le rituel de la messe de Pâques allusion à la faute d'Adam. Et elle est appelée Felix culpa, heureuse faute. La trahison d'Anna Arendt, je lui rends grâce. Parce que, à cause de cette... Vous voyez, maintenant je ne dirai plus trahison. À cause de cette... Pourquoi n'a-t-elle pas détruit les lettres? Pourquoi n'a-t-elle pas détruit? Probablement parce qu'elle savait, elle avait la conscience très aiguë, très lucide, qu'il se passait là quelque chose de tout à fait unique. Et c'est ça qui est important, je crois, à dire aujourd'hui. Peut-être, voyez-vous comme c'est étrange, peut-être, en Allemagne, on ne peut pas dire cela d'une façon aussi directe et aussi simple pour des tas de raisons, pour des raisons curieuses, un peu... Et il se trouve qu'en France, nous pouvons le dire. Eh bien, disons-le, c'est une correspondance très extraordinaire dans laquelle nous avons, vis-à-vis de phénomènes aussi fondamentaux que l'amour, au sens le plus... complet du terme. Hein? Nous avons un témoignage et une illustration dont, à ma connaissance, il y a très peu d'exemples. Alors, voilà le premier point, si vous voulez.
J'ai été frappé dans le propos qui a été tenu, on peut dire que Anna Arendt réagit vis-à-vis de Heidegger, qui l'agace, qui l'irrite en même temps qu'il l'intrigue et que parfois même il lui fait pitié. Alors ça certainement ça n'apparaît pas dans la correspondance même, mais est-ce que ça apparaît dans d'autres écrits et comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Il y a d'autres...
Ça veut dire que dans les années 50, elle n'est plus...
Il y a d'autres correspondances que celles dont nous parlons ce soir, c'est-à-dire la correspondance d'Anna Arendt avec Jasper, ça a été édité. Et il est souvent question de Heidegger dans cette correspondance. Les lettres qu'elle a échangées avec son mari Heinrich Blücher comportent aussi beaucoup de choses en sens, donc c'est à ce genre de choses que j'ai fait allusion.
Oui, mais justement, c'est pas en consonance avec la correspondance même.
Ou bien, bon, de... Oui, mais la correspondance, justement, n'est pas une correspondance. Le titre de couverture est « Lettres et autres documents ». Et donc, bon, il y a des documents. Bon, il y a le texte qu'elle a prononcé à la radio bavaroise en 1969 à l'occasion du 80e anniversaire de Heidegger. Bon, Heidegger a 80 ans. Bon, texte qui mérite, je crois, une lecture extrêmement, extrêmement attentive et... où quelque chose de ce que j'ai dit là transparaît par moment. Mais bon, l'évidence, c'est d'abord, évidemment, qu'elle a, pour la personne et la pensée de Heidegger, bon, une admiration enthousiaste et qu'elle a une intelligence exceptionnelle de l'œuvre de penseur de Heidegger. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Comment ?
Ça n'a pas un petit peu aveugle par rapport aux citoyens. À l'époque, vous avez présenté un des attendus. Quelqu'un qui est rusé, qui a réussi à échapper, mais il me semble que j'ai été responsabilité à l'université de Paris.
Non, c'est pas l'université de Heidelberg, c'est l'université de Freiburg. Oui. Il a été recteur, oui. Il a eu des responsabilités administratives en tant que recteur de l'université. Oui.
Et vous ne pensez pas qu'il aurait pu, en tant que citoyen, avoir une autre attitude, vous le démontrez un peu comme une victime? quelqu'un qui était en but, comme ça, de citer de ses concitoyens, mais s'il est, comme vous dites, la prose, isolé, désigné sur le sol distribué, ne pensez pas que on peut aussi comparer Karl Marx, Thomas Mann, Reich.
Oui, mais, par exemple, la différence avec Thomas Mann, c'est que Thomas Mann a immigré, Heidegger n'a pas immigré.
Oui, mais pourquoi c'est différent. Il se cache.
Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il pensait que sa place était en Allemagne. C'est-à-dire qu'au moment où.
Au milieu des siens, en fait.
Comment?
Au milieu des siens, du coup.
Oui.
Ça, moi, ce que vous m'avez dit, ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue en Allemagne avec quelqu'un que je connaissais très bien, et qui me disait, je dis en allemand. Weißt du, der Narzissmus war gar nicht so schlimm. In meinem Kopf ist überhaupt kein Farbenfroh. Ça veut dire, la vie se dit pas si grave que ça, tu sais. Dans ma tête, on n'a jamais vu un cheveu. On n'a jamais rien.
Attention, là, vous mettez deux choses. Vous mettez deux choses. D'ailleurs. J'ai dit, oui, bon, que Heidegger était sorti indemne de la dictature hitlérienne, de la Seconde Guerre mondiale, donc au sens de l'expression banale, on ne lui a pas touché un cheveu. Mais il ne faut pas mélanger ça avec l'idée qu'il y en a Diskus war nicht so schlimm. Ça, Heidegger n'a jamais dit ça, n'a jamais pensé ça. N'a jamais pensé ça. Et même s'il a commis sa célèbre et catastrophique erreur en 1933, c'est en grande partie parce qu'il pensait que la situation était d'une gravité exceptionnelle et qu'il fallait tenter quelque chose face à une situation si grave. Donc
c'est possible. Et lorsque il adhère au nazisme.
L'expression il adhère au nazisme. Oui, il s'est inscrit au parti.
Il
s'est inscrit au parti début mai 1933.
Il a une approche philosophique parce qu'il pense que, comme il entend dans des gens comme Goebbels, comme Hitler, comme Himmler, il s'agit d'adhérer à la thèse de la supériorité.
Non, c'est pas du tout ça qui est en jeu. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très bien renseigné, documenté sur l'histoire de l'année 33, du rectorat de Heidegger, de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Alors,
je suis peut-être pas bien renseigné sur les points que vous croyez, mais non, je suis bien renseigné sur la progression du nazisme et la pensée des Allemands par rapport
au nazisme. Est-ce que je peux dire quelque chose, monsieur? Connaissez-vous, avez-vous un peu lu Hannah Arendt?
Je ne suis pas un spécialiste comme vous.
Mais moi, j'aime pas dire je suis un spécialiste. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Heidegger. Je ne suis pas un spécialiste de Hannah Arendt, mais je connais un peu Hannah Arendt. La question que je vous pose est une question toute simple. Pensez-vous que Hannah Arendt n'a pas posé les questions que vous nous posez à Heidegger quand elle l'a revu en 1950? Ça, c'est la question. Première question. Deux, pardon. En 1900, c'est plus tard que ça, hein. C'est un petit peu plus tard, mais ne nous occupons pas de ça.
Oui. Oui, oui.
Mais c'est tout le monde dans la correspondance. Moi, c'est la partie de la correspondance d'Anna qui, en fait, c'est d'être là, beaucoup sur la distanciation qu'elle avait avec son maître. Elle avait 19 ans, j'en avais 36. C'est une jeune femme étudiante, l'admiration de son maître avancée. Mais elle a quand même, vis-à-vis de lui, on a dit quelques.
Je vous arrête à un mot, son maître à penser.
Disons son maître. Oui. Il y a quand même chez elle, vis-à-vis de cet homme-là, quelques. Il n'y a pas de romantisme comme c'est. Mais il y a quand même chez elle une attente dans l'amour pour le corps et qui apparaît dans ses poèmes. Car si on lit les poèmes, spécialement de la page 365, j'ai l'impression que je lis une correspondance de quelqu'un qui est dans une intimité, qui s'adresse à quelqu'un qui l'aime certainement et qui ne répond pas à un amour je suppose qu'elle attendait plus qu'il se serait plus en concerné. Il aurait été de plus élevé, car quand même, il l'aime, mais il a quand même une philosophie qui est toujours prégnante. Hein.
Admettons que ce que vous disiez est vrai. Que se passe-t-il en 1950 ? Est-ce que vous pensez que Hannah Arendt, revenant en Allemagne, sachant ce qui s'est passé, a pu, disons les choses de façon aussi claire que possible, comme nous disons dans le langage tout à fait courant, pardonner à Heidegger? Non, vous avez tout à fait raison.
Mais
à ce moment-là, ça ne correspond plus, ça ne consonne plus avec le ton des lettres que nous avons. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant qui a été souligné à l'instant, à savoir Hannah Arendt, quand elle écrit à Heidegger, lui écrit sur un ton dans lequel il n'y a, je pense, je vais demander son avis à mon voisin, dans aucune des lettres à Heidegger, il n'y a ce ton d'agacement. Encore une fois, il faut se poser une question. Pourquoi ? Alors, est-ce qu'elle va se tromper elle-même ? Ou bien est-ce qu'elle considère que quand elle parle à Heidegger, elle ne veut plus que se situer au niveau le plus élevé de leur relation ? C'est ça que je pense. Voyez-vous ? Moi, ce qui me frappe dans la correspondance, c'est ce que je crois pouvoir dire de la manière suivante, c'est que c'est une correspondance qui est à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes. C'est-à-dire, il y a une étape que vous avez caractérisée, madame, en disant tout à l'heure que c'était l'étape d'une très jeune fille. Permettez-moi d'ajouter qu'une très jeune fille comme Hannah Arendt, ce n'est pas un bas bleu, c'est quelqu'un qui a déjà une incroyable maturité. Bien, non. Et puis ensuite, il y a cette séparation. Le retour d'Hannah Arendt en 1950, où se passe manifestement quelque chose devant quoi nous ne pouvons que nous interroger, mais pas du tout d'une manière suspicieuse, en se disant mais c'est pas possible. Non, c'est possible. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire la réapparition, la métamorphose de quelque chose qui a été très fort et qui a eu lieu déjà une fois et qui se reproduit d'une nouvelle manière et qui donne lieu à, de la part de Heidegger, à des lettres qui sont quand même assez, assez extraordinaires. Les lettres de Hannah Arendt, nous ne les avons pas, donc nous ne savons rien. Et puis, au moment de ce que Ursula Lutz appelle l'automne, il y a quelque chose de, à mon sens, de très profondément émouvant, et qui est une sorte de tendresse je dirais presque une tendresse absolue. Et là, très étrangement, la tendresse de Hannah Arendt est absolument manifeste.
Elle va même jusqu'à aimer
Hitler. Oui, mais ça. Oui. Absolument. Est-ce que ce que vous êtes vous-même en train de dire n'est pas quand même déjà quelque chose de très profondément extraordinaire? Mais je reviens à la question de monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire je voudrais que l'on examine très sérieusement, est-ce que Hannah Arendt a pu ne pas poser avec une radicalité, avec une, je ne dirais pas agressivité, parce que le mot agressivité ne va pas, mais sans concession, est-ce qu'elle ne lui a pas posé toutes les questions que nous pouvons nous poser? Nous ne savons pas ce que Heidegger lui a répondu, mais nous savons la réaction de Hannah Arendt. J'ai sous les yeux un texte qui est tout à fait intéressant, parce que c'est un texte de Hannah Arendt elle-même qu'elle a écrite en 53, donc au moment du renard. Et elle dit, elle écrit à un collègue philosophe ou qui s'occupe de ces questions, je dois vous mettre en garde contre mon essai sur l'existentialisme, en particulier la partie concernant Heidegger, qui est non seulement complètement inadéquate, mais aussi tout simplement fausse en partie. Or, moi je me souviens que j'ai lu à l'époque les textes de Hannah, à l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans, 30 ans, les textes de Hannah Arendt, dans lesquels elle disait que, à propos de Husserl, hein, elle disait que la manière dont Heidegger s'était comporté vis-à-vis de Husserl faisait de Heidegger un potentiel mörder. En français, un assassin potentiel. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, c'est monstrueux. Parce que je n'ai jamais pensé que Heidegger se soit jamais comporté comme un assassin potentiel. Bien, ça c'est mes raisons à moi. Mais j'imagine que ce que lui a dit Heidegger a confirmé aux yeux de Hannah Arendt que l'on ne pouvait pas écrire des propos de ce genre. Par conséquent, il faut toujours faire très attention quand on accuse Heidegger de compromission, etc. Donc, pour revenir, disons, au renard, et je ne voudrais pas trop revenir là-dessus, parce que d'abord, je ne trouve pas que ce texte soit si intéressant que ça. Enfin, bon. Non, mais ça c'est
après, voilà. Après la guerre.
Non, vous permettez que je termine, je veux dire, il y a, encore une fois, des accusations que l'on ne peut tout simplement pas porter. Et le fait que Hannah Arendt ait admis et compris ce que lui a dit Heidegger, je ne pense pas une seconde que c'est par une indulgence. Ça n'est pas par indulgence. Vous voyez, je vous l'ai dit, le texte n'est pas un texte indulgent. Elle n'est pas indulgente. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle avait été trompée par des gens malveillants. Je vous signale à ce propos que l'une des personnes qui lui a fait comprendre ça, c'est Jaspers. Jaspers a écrit à Hannah Arendt, faites très attention, vous êtes en train de vous tromper lourdement. Et à ce moment-là, Hannah Arendt a freiné et a commencé à se poser des questions précises. Et ça, c'est la seule chose que nous ayons le droit de faire, de poser des questions précises et de répondre de façon précise à ces questions-là. Oui ?
Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'elle s'est mise aussi à relire les textes d'Heidegger, et en particulier les cours sur Nietzsche, où elle a eu confirmation, comme elle le dit d'ailleurs dans une lettre, cette rencontre, c'est la confirmation de toute ma vie. Et lisant Heidegger, elle voit comment Heidegger se mettait à penser le nazisme pour...
Oui. Ça, c'est un fait absolument établi. Lorsqu'elle est venue à Fribourg et qu'elle a rendu visite, enfin, c'est plus exactement, Heidegger lui a rendu visite et qu'ensuite elle a rendu la visite, il s'est passé ceci, que Heidegger lui a communiqué des inédits, des textes qu'il n'avait communiqués à personne. Je disais ça l'autre jour à un ami, je disais, je pense que Hannah Arendt a eu connaissance de textes de Heidegger que Heidegger n'a montré à personne, même pas à Jean Beaufret. Pour des raisons tout à fait, je dirais, tout à fait simples, c'est que Hannah Arendt était allemande et donc elle pouvait directement entrer dans le texte, qui est évidemment un texte qui travaille, monsieur, avec de telles tensions dans la langue allemande qu'il il a pensé que Hannah Arendt était quelqu'un qui pouvait lire ces textes. Et ce qui est tout à fait remarquable, on a parlé, moi j'insiste, à chaque fois que je parle de Hannah Arendt, même indépendamment de Heidegger, mais chaque fois, j'attire l'attention du public sur la carrure du personnage de Heinrich Blücher. Le mari, le vrai mari, c'est-à-dire celui qui est... Parce qu'elle a été mariée deux fois. La première fois, elle s'est mariée d'une manière absurde pour se marier, etc. Bon, ça, elle a divorcé au bout d'un certain temps. Et elle s'est mariée ensuite avec Heinrich Blücher. Et Heinrich Blücher, c'est un personnage très, 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 très important. C'est quelqu'un qui, naturellement, n'a pas du tout le... Comment dirais-je, est-ce que je peux employer le mot la productivité de Heidegger, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose du génie de Heidegger. Et d'ailleurs la preuve, c'est que Heinrich Blücher est l'un, il y a Hannah Arendt et lui qui ont lu ces textes que Heidegger leur a donnés, et il est un lecteur tout à fait attentif, et il n'arrête pas de dire que c'est absolument essentiel. Or, je signale que Heinrich Blücher était spartakiste, que Heinrich Blücher est un des premiers membres du Parti communiste allemand. Donc, que s'il y avait la moindre possibilité de penser qu'il y avait quelque chose chez Heidegger qui n'était pas propre, n'était pas, etc., il n'aurait probablement pas mis ça sous son coude. Il faut tenir compte de ce genre de choses. L'admiration de Blücher pour Heidegger est un phénomène tout à fait étonnant. Et qui vient du fait qu'il a vu quelque chose de la puissance de la pensée de Heidegger. Et c'est à ça qu'il faut constamment revenir. Parce que si on place les choses sur sur le niveau, sur la perspective de l'affectivité, comme disait très bien Pascal David, ça n'est pas du tout séparé. Qu'il y a une affectivité et puis que par ailleurs c'est très bien, c'est un grand penseur, etc., etc. Non, ça va tellement fondamentalement ensemble, et c'est tellement rare que nous devons faire tous nos efforts pour essayer de comprendre cette rareté. C'est tout à fait essentiel. C'est vraiment une correspondance. Je ne peux que me répéter, c'est une correspondance où nous n'avons pas, il n'y a pas d'autre exemple. C'est quelque chose de réellement bouleversant.
Une aporie demeure, c'est la question de savoir.
Pardon.
Une aporie demeure, et c'est une question de savoir si cette relation qui est née entre deux êtres exceptionnels, deux grands penseurs, avec d'un côté Anna Arendt, ce cœur pensant, et de l'autre, Heidegger, le philosophe du Dasein, qui a été fasciné par la personne d'Hitler. Comment a pu naître une telle relation qui a duré depuis 1925
Mais votre question contient la réponse. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est que vous posez une question et vous n'entendez pas que vous répondez à la question. Il n'y a jamais eu de fascination de Heidegger pour Hitler. C'est pas vrai. Quand, si Heidegger est capable de dire à partir de 1935, Hitler est le criminel en chef, je vous signale qu'il vit toujours. Pardon.
Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse exacte?
Mais oui.
On peut trouver Hitler, si tu es en chef.
Mais oui, je peux.
Le mot le chef des brigands. J'aurais voulu connaître le mot.
Non, mais ça, c'est cette expression-là.
C'est der Hauptverbrecher. En allemand, c'est der Hauptverbrecher.
C'est le même mot. En
fait, oui, c'est la même expression.
Oui.
Non.
Bien entendu, ce genre de choses n'est pas dit dans les comptes rendus habituels. J'ai sous les yeux un article, c'est inutile de dire qui l'a écrit, où il est paru, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais la chose qui est écrite, c'est ceci. Je vous prie d'écouter en ouvrant vos oreilles. Rien n'explique clairement comment il a été possible que la militante juive, devenue à partir de 1950 la première théoricienne des systèmes totalitaires, tienne pour négligeable et pardonne l'engagement pro-nazi de son amant, ses propos et ses actes antisémites durant la période fasciste de l'Allemagne. Ça, monsieur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai écrit dans un texte qui a été publié que ce genre de mensonge est passible des tribunaux. C'est-à-dire, donnez-moi, à moi, la référence de ça. Vous comprenez? Moi, je vous donne la référence de Hauptverbrecher. Je ne l'ai pas en tête parce que c'est absurde, j'aurais dû le faire, j'ai pas pensé qu'on irait dans cette direction, mais c'est très bien qu'on aille dans cette direction. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui vit toujours, qui s'appelle le professeur Walter Biemel. Walter Biemel est un homme qui doit avoir maintenant 82 ou 83 ans. Walter Biemel est arrivé parce qu'il était infirme, il avait eu la poliomyélite. Il est arrivé venant de Roumanie, il a demandé à venir étudier la philosophie à Fribourg-en-Brisgau en 1942. Quand il a fait sa demande auprès des autorités allemandes, l'autorité allemande lui a dit « Vous avez une idée magnifique, mais le professeur Heidegger est malade, il ne peut pas, il ne fait pas cours en ce moment. » Alors il s'est renseigné, il a demandé à des... Ouais, c'était faux. Donc il a fait sa demande à nouveau, il a réussi à y aller. Et il m'a raconté, et il l'a écrit, parce que je le connais. Il m'a raconté, et il a écrit, ça a été publié, que dans des conversations avec Heidegger entre 42 et 44, Heidegger parlait avec une telle netteté du caractère criminel du régime nazi, que lui, Biemel, étudiant, qui devait avoir 20-22 ans, avait peur que quelqu'un entende, parce qu'il était, lui, Biemel, en danger. Comprenez-vous? Et ça n'est pas un témoignage. Il y a une quantité de témoignages. Et ces témoignages ne sont pas produits. On continue à dire mensonges. Et en plus, vous comprenez, le malheureux qui a écrit ça, il le croit, il l'a entendu dire 10 fois, ça se répercute, ça se dit. Par conséquent, on dit, c'est tout à fait clair, Heidegger est quelqu'un qui a, entendez bien, des propos et des actes antisémites pendant la période. C'est absolument faux, c'est un mensonge. Ça, c'est, une fois que l'on sait que c'est un mensonge, c'est purement et simplement ignoble. Vous en conviendrez. Voilà. Ce que je pense, voyez-vous, c'est que... Attendez, toute petite chose, je rajoute quelque chose. J'ai été dans la situation, bien que n'étant pas né en 1907, j'ai été dans la situation de Hannah Arendt. C'est-à-dire que vers 1950, j'étais persuadé que Heidegger était un nazi. Et par conséquent, tout à fait clair que je considère que c'est quelque chose d'absolument honteux. Et lorsque je me suis mis, pour des raisons philosophiques, à examiner de façon parfaitement précise les accusations, les tentatives de preuve des accusations, je me suis aperçu que chaque fois, c'était faux.
Voilà. Pensez qu'on le classe dans la catégorie de la résistance intérieure.
Comment ?
Pensez qu'on peut le classer dans la catégorie des gens de la résistance intérieure, comme la Hongresse qui les poursuit, et qui se considèrent comme quelqu'un qui va dans la inner.
Vous voyez par exemple le fils de Heidegger a toujours dit qu'il n'irait pas, qu'il n'oserait pas, qu'il ne monterait pas l'attitude de Heidegger jusqu'à ce qu'on appelle la résistance intérieure. Ça n'est pas une résistance au sens que nous donnons. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à cerner, parce que quand nous disons résistance, la résistance à l'ignominie, c'est tellement direct et immédiat que quelqu'un qui ne fait pas quelque chose de façon directe et immédiate passe précisément pour tolérer.
Le fait-il dans ses textes ?
Pardon ?
Le fait-il dans ses textes ?
Oui.
Ou s'il peut écrire ?
Oui.
Oui.
Oui. Il le fait d'une manière, dans les textes, il le fait d'une manière qui est tellement, comment dirais-je, qui demande de notre part, à nous qui vivons dans une société où la parole est entièrement libre, où tout le monde peut dire n'importe quoi, la preuve. Alors qu'il vit, lui, Heidegger, pendant la période nazie, dans une société où la parole est incroyablement verrouillée, la façon dont il fait ce qu'il fait implique que nous ayons l'oreille pour ça. Vous comprenez ce que je dis ?
Je voulais dire, pour compléter ce que disait monsieur, il a beaucoup fréquenté les poètes morts ou vivants, Hilderim, Trakl, René Char, qui est allé voir, mais je voulais vous demander comment vous interprétez justement la visite de Paul Celan qui est allé voir à Tottenberg et auquel il n'a pas répondu. Paul Celan, manifestement, lui demandait quelque chose, une parole, il en a même fait un poème. Vous voulez vous demander votre interprétation à ce sujet?
Oui. Écoutez, je ne vais pas. Ne croyez pas que je me défile. Mais il existe, curieusement, ça fait bien 15 ans, il existe un livre en Allemagne qui s'appelle Rencontre avec Paul Celan, qui a été fait par l'homme qui a invité Celan à Fribourg. Et donc qui a fait venir Celan à Fribourg. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses sur cet événement dont vous parlez, sur la rencontre de Celan et de Heidegger. Ça fait 15 ans, disons peut-être 12 ans, que ce livre existe, et je dis il faut qu'on le traduise en français. Il n'y a pas moyen. Ça n'intéresse personne.
Il faudrait préciser quel est le livre.
Comment ?
Paul Celan, dans ce livre, dans ce poème,
oui.
Quelle est son attitude vis-à-vis de Heidegger ? Parce que pour un poète qui est hermétique, et qui sait faire passer un message avec son propre vocabulaire, les choses seraient très claires à partir du moment où on voit la clé. Lui, il me dirait, si vous connaissez ce poème, moi ça m'intéresse, ça peut dire.
Est-ce que je peux terminer ce que je dis ? Je vais simplement. George Steiner avait écrit il y a, je crois, environ 10 ans, quelque chose sur ce thème. Et il avait repris l'idée selon laquelle la déception de Celan devant Heidegger avait contribué au suicide de Celan. Vous m'avez bien compris. Bien. Entre, il y a le moment où Steiner a écrit cette remarque, Et aujourd'hui, on a publié des lettres de Celan à un ami, et Steiner, qui est un homme profondément honnête, a pris le soin de publier une rétractation, c'est-à-dire de dire « J'ai écrit que la rencontre de Celan et de Heidegger avait suscité chez Celan une telle déception que ça l'avait conduit, ça avait ajouté à l'a conduit au suicide. » Eh bien, la publication des lettres de Celan interdisent cette interprétation. Celan raconte à son ami la rencontre avec Heidegger a été entièrement bénéfique pour moi. Le livre dont je parle, qui est le livre du professeur Baumann, qui a été publié chez Zurkamp, et dans lequel il est question de cette affaire, dans ce livre... l'ennui, c'est que là, je suis en train de raconter des choses tellement, tellement précises que plus personne ne peut suivre précisément. Je vais essayer d'être aussi clair que possible. Le professeur Baumann était un ami intime d'une poétesse qui s'appelle Marie-Louise Kaschnitz. Marie-Louise Kaschnitz était une amie de Paul Celan. Baumann rapporte, écrit qu'il a reçu après la visite de Celan à Fribourg. Celan est parti chez Marie-Louise Kaschnitz, aller la visiter. Et il cite une lettre de Kaschnitz à Baumann, donc à lui, qui lui dit « Qu'avez-vous fait à Celan à Fribourg? Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. » Écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas publier ça? Moi, vous comprenez, il suffit de publier ça, et puis après on discute. Mais si on dit non, ça n'est pas vrai, Celan a été effondré par la réponse. Vous continuez à ne pas laisser passer l'information, comme on dit aujourd'hui dans le monde où nous vivons. C'est étrange, mais c'est ça. Le poème d'Hautenauberg, je regrette beaucoup, je l'ai reçu en tirage original de Paul Celan. Moi, j'ai un exemplaire dédicacé de Paul Celan. Ça m'étonnerait, étant donné qu'il m'a envoyé ça parce que je traduis Heidegger. Ça m'étonnerait quand même qu'il m'ait envoyé le poème pour me dire, vous savez, vous devriez cesser de traduire du Heidegger, enfin.
Alors, pourquoi entretient-on, autour d'Heidegger, l'idée qu'il y a eu une fascination? Pourquoi nous sommes dans un pays de liberté? Et freedom is the right to tell people what they don't want to.
Je suis professeur, j'ai des élèves, il y en a quelques-uns qui se souviennent parfaitement de ce que je vais vous dire ici. Je dis à mes élèves qu'il ne faut jamais se laisser aller à aucune fascination. Je dis, pour que ce soit bien clair et mnémotechnique, que le mot fascination est un mot qui est parent du mot fascisme. Fascination, fascisme. Je ne veux pas tomber dans la fascination. Non seulement je ne veux pas, mais je fais tout pour éviter ça. Il ne s'agit pas d'être fasciné par qui que ce soit. Si Heidegger avait été fasciné par Hitler, si c'était vrai, je dirais c'est vrai, et deuxièmement, ça c'est inadmissible. Comprenez-vous ?
Alors
pourquoi entretient-on ce
flou ? Je n'ai pas entendu. Pourquoi entretient-on ce flou ? Est-ce que je peux répondre ?
Voyons si, par exemple, quelqu'un d'autre peut répondre à cette question.
On pourrait se demander, quand vous demandez pourquoi entretient-on ce flou, si cette question ne pourrait pas s'attirer la même réponse que s'est attirée une question antérieure, à savoir si la réponse à cette question ne serait pas dans la formulation elle-même, c'est-à-dire dans le « on ». Une question.
Moi, je dirais, il ne tient qu'à nous de sortir du flou, c'est-à-dire en se documentant sérieusement. Par exemple, ce dont nous venons de parler, moi, je voudrais donner simplement quelques petites précisions et quelques indications pratiques. C'est-à-dire, bon, le livre sur Paul Celan, dont parlait tout à l'heure François Figuier, c'est le livre de Gerhard Baumann. Donc, ça s'appelle Erinnerungen an Paul Celan, si je ne me trompe. C'est un livre trouvable. Il n'est malheureusement pas traduit en français, mais il y a probablement des germanistes dans la salle. C'est un livre qu'on peut se procurer, qu'on peut lire.
Malheureusement, moi j'ai déjà proposé à 3 éditeurs de le prendre. Non, ça n'intéresse personne.
Deuxième précision que je voudrais donner. La lettre de Paul Celan, écrite dans les jours qui ont suivi sa rencontre avec Heidegger, est une lettre adressée à Franz Wurm. Donc, ça aussi, c'est une chose trouvable, éditable, qui figurera tôt ou tard dans les éditions de la correspondance de Celan. Et puis enfin, en ce qui concerne Heidegger et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit durant la période hitlérienne et même avant et même après, il y a une source documentaire essentielle sur cette question, c'est l'édition des écrits politiques de Heidegger publiée chez Gallimard dans la même collection que ce volume. Ça, c'est un livre qui existe et qui fournit une documentation historique, approfondie, détaillée. Vous avez dans ce volume la traduction française, par exemple, de toutes les allocutions qu'a prononcées Heidegger quand il était recteur de l'Université de Fribourg. Donc ça, si vous n'avez jamais eu ce livre entre les mains, il ne tient qu'à vous de le voir, de le consulter, de l'étudier. Et c'est comme ça qu'on sort du flou.
Si je peux ajouter quelque chose à propos du flou, je dirais qu'il y a encore autre chose. C'est que, et là je pense que je ne vais pas faire autre chose qu'enfoncer une porte ouverte, Heidegger, ça présente un certain nombre de difficultés. En disant ça, je pense qu'il ne faut pas non plus se polariser là-dessus, parce que par un certain côté, Heidegger, c'est le même côté mais vu autrement. La pensée de Heidegger est extraordinairement simple. Mais ça, c'est toujours la même chose, le plus simple est toujours le plus difficile, etc., etc. Heidegger est un auteur difficile. Il est extraordinairement économique de se dispenser de l'effort d'affronter la difficulté pour des raisons qui sont des raisons de type moralisant. C'est-à-dire, cet individu est un être ignominieux. Par conséquent, il est très clair que je ne vais pas passer une seconde à lire cela. Je fais ça aussi, moi. Il y a des tas d'auteurs que je ne lis pas comme ça. Mais je ne suis pas fier. Je ne dis pas, je vais pas donner de nom, mais un auteur a dans sa vie, etc., ceci, c'est qui me paraît politiquement pas du tout, etc. Donc je n'en suis pas fier. Et ça n'est pas une bonne méthode. Mais au moins, je sais cela. Donc il faut s'en rendre compte. Dans le cas de Heidegger, ça joue à plein. C'est une formidable économie. Comment va-t-on perdre 10 minutes à étudier un auteur nazi? Moi, j'ai dit, je l'ai écrit. Quand j'étais étudiant, je disais, Heidegger est un auteur nazi, je ne lirai jamais Heidegger. Ça me paraît évident. Le jour où je me suis rendu compte que la prémisse n'était peut-être pas tout à fait juste, je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire pour éviter de travailler sur quelque chose qui pourrait être très important? Voilà le résultat. Maintenant, je traduis Heidegger. Et je vais ajouter, parce que c'est au fond, il faut dire des choses comme ça. Je traduis Heidegger et je ne peux pas ne pas penser toutes les minutes du travail où je traduis Heidegger. Je veux dire que c'est un travail qui est tellement, tellement, tellement gratifiant. Voilà.
C'est ce que vous avez dit, pas fascination.
Jamais.
C'est la chose.
Il faut être fasciné par rien.
Ce qui n'est pas fasciné par vous avez repris ma réflexion de mettre à penser.
Oui.
Mais
je ne considère pas Heidegger comme mon maître à penser.
Elle n'est pas fascinée par lui. Elle est en admiration, oui. Dans une estime pour sa pensée, et certainement pour un personnage qu'elle connaît mieux de l'intérieur que lui-même. Car quand on voit la personnalité lumineuse de cette femme, cette pureté, cet extraordinaire personnage humain, on ne peut pas imaginer qu'elle se soit laissée à une composition que l'amour passionnel aurait rendu. J'ai pas dit, elle a une maturité, donc elle a, dans les années 50, elle est au sommet de sa pensée, et lui aussi, il lui envoie des lettres en vers et en magnifique. Et ces gens-là s'estiment véritablement. Et ils sont passés au-delà du problème de cette catastrophe pour laquelle en Allemagne.
Faites attention, il ne faut pas dire ils ont mis ça de côté en disant nous n'en parlerons pas. Ils ont parlé à fond de ça. Non, c'est absolument vrai.
La lettre, ça se trouve dans une lettre qui figure dans le volume dont j'ai parlé, écrit politique. Si vous voulez consulter la lettre en question, elle est traduite en français dans le volume rassemblant les écrits politiques. La documentation est rassemblée, traduite en français, dans les écrits politiques. Il n'y a qu'à s'y reporter.
Il
n'y
a qu'à s'y reporter.
Bien entendu.
Et pour en revenir aux lettres, vous avez parlé d'une correspondance extraordinaire et non romantique. Il y a un mot qui apparaît beaucoup dans les lettres des années 25, c'est le mot foi, qui me paraît ni romantique, enfin qui me paraît justement pas romantique, et à la fois extraordinaire, parce que c'est pas un mot qu'Heidegger emploie beaucoup. C'est pas un mot qu'il emploie sans doute dans le sens chrétien. J'aimerais que vous parliez de ce mot. Chaque fois qu'il parle de l'amour, c'est le mot foi quasiment. Y compris avec la sœur, par exemple. Comment comprendre ce mot qui revient si souvent quasiment toutes les cinq lignes dans les lettres du général 5?
Alors j'ai remarqué aussi, c'est très important ce que vous soulignez là, parce que dans les toutes premières lettres, il est question de foi, mais pas seulement de foi, mais de foi inconditionnelle. Et je crois que l'adjectif est tout aussi important que le substantif. Il appartient à l'amour de métamorphoser la gratitude en loyauté envers soi-même, comme en foi inconditionnelle en l'autre. Il y a une lettre de Heidegger à une autre correspondance, une autre correspondante, Elisabeth Bormann, où Heidegger écrit que Dieu appelle chacun d'une voix autre. Et il est d'ailleurs, vous auriez pu, sur la même lancée, ajouter qu'il est non seulement question de foi, mais qu'il est aussi question de Dieu. Dans la correspondance, au moins à deux reprises, sinon davantage, dans la correspondance avec Anna Arendt, cette fois, il est question de Dieu à plusieurs reprises. Dans les lettres, je crois que c'est en 1925, par exemple, ce que Dieu vous a accordé d'être, peux-tu imaginer rien de plus grand que ceci, être en droit d'attendre un tel être de toute éternité? Donc je crois que la foi inconditionnelle en l'autre, c'est exactement l'erreur de perspective aujourd'hui dominante qui fait que, par exemple, un journaliste, par ailleurs très estimable, peut trouver des accents lévinassiens dans cette correspondance, parce que c'est l'expression qu'employait l'autre jour Alain Finkielkraut. Alors que ce qui est parfaitement clair en particulier la lettre de 25, mais pas seulement, c'est que ce que l'on trouve à juste titre d'un grand intérêt dans les écrits de Lévinas, en rapport avec la question de l'altérité, d'autrui, le visage, etc., est présent, mais et comment, dans cette correspondance. Donc n'inversons pas la perspective. Et en particulier, cette phrase qui a été citée à plusieurs reprises, qui est en effet une belle... dans la même lettre, où il est question de foi inconditionnelle en l'autre, que la présence de l'autre fasse soudain irruption en notre vie, il n'est pas en notre pouvoir, ni en nos ressources, d'en endiguer le flux. Tout cela fait partie de l'univers de la foi, en quelque sorte. Et peut-être que ce n'est pas sans rapport, pour apporter juste un complément minime à ce qui a été dit au sujet d'une question que vous posiez, monsieur, tout à l'heure, à propos de résistance. Il y a une expression très importante dans ce que Heidegger écrit dans une lettre au rectorat académique de l'université de Fribourg en 1945, et cette lettre est dans le cahier de Lerne. C'est page 100, si vous voulez la référence précise, dans le cahier de Lerne, Heidegger. Heidegger parle de résistance spirituelle. Et il est aussi dans l'esprit politique. Résistance spirituelle, à propos de ses cours, entre 1933 et 1945, Heidegger a consacré presque, je dis bien presque, mais à partir de 1935, presque tous ses cours à des cours sur Nietzsche. Une grande partie de ses cours, en tout cas sur Nietzsche. Il est rare qu'une année n'ait pas connu un semestre où il y avait un cours sur Nietzsche. Or, précisément, si vous permettez de terminer sur ce point simplement, ne tombons pas dans l'illusion et la facilité qui consisterait à dire c'est d'autant plus compromettant, puisque précisément Heidegger a fait des cours sur Nietzsche pour montrer à quel point la pensée de Nietzsche pouvait être l'objet d'une récupération qui n'avait rien à voir avec la pensée de Nietzsche, et c'est ce que Heidegger entend par résistance spirituelle. L'expression est de Heidegger.
Il est particulièrement habile, c'est vrai. Il est particulièrement habile parce qu'au moment où on sait que Hitler a rendu visite à la mère de Nietzsche.
Je ne crois pas que Hitler ait rendu visite à la mère de Nietzsche.
À la sœur de Nietzsche, on se rend visite. C'est quelqu'un qui est de toute façon en mesure de santé au
Nietzsche. Mais justement, monsieur, justement, un point, ouvrez votre compréhension. Pensez-vous, si Hitler pense que lui a compris Nietzsche comme il faut le comprendre, et que quelqu'un explique que cette compréhension-là est une véritable trahison de Nietzsche, est-ce que vous ne pensez pas que ça n'est pas seulement, allez, je dis, un peu d'ironie, ça n'est pas seulement de l'habileté?
Enfin, nous n'avons pas assisté au cours.
Mais ils sont publiés et traduits en français.
C'est ce qui s'est passé, il était interdit au cours. Il a été interdit de son cours. Il y avait certainement une certaine violence. D'ailleurs, on le voit dans la correspondance qu'il y a. Il y avait un discours qui maîtrise toujours un discours.
Vous croyez qu'il y a pas tout dit?
Même les
J'ai dit qu'en Allemagne, le rapport à Heidegger est extraordinairement trouble. C'est-à-dire, les Allemands sont dans une situation par rapport à... Le vieux Gadamer a dit, il y a peut-être, je crois, je ne sais plus combien, une dizaine d'années, il avait dit, il est probable que Heidegger reviendra en Allemagne en passant par l'étranger. Et les Allemands sont dans une situation un peu curieuse de ce point de vue. J'ai dit à ce propos une fois quelque chose qui a été publié quelque part, mais dans un endroit tellement, tellement lointain que ça n'a jamais été, c'est jamais passé dans le public. Mais je dis que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Que les Allemands deviennent à peu près... Si je me mets à dire des choses trop violentes, ça va être absurde. Si les Allemands deviennent de véritables citoyens d'un pays démocratique, je ne m'en plains pas, bien au contraire. Et si pour... Il fait partie, n'est-ce pas, de cette évolution, qu'ils méconnaissent Heidegger, eh bien, tant pis pour eux. Parce que moi, je pense que c'est pas nécessaire de mettre Heidegger aux oubliettes pour devenir un citoyen véritable. Voilà, c'est tout simple. Je ne pense pas du tout que Heidegger soit un petit homme autrement que par la taille.
Est-ce que cette situation en Allemagne est liée à son engagement en 33?
C'est évidemment lié à son engagement de 33, mais avec le relais dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que c'est l'alibi par excellence. Heidegger lui-même disait « ça a commencé bien avant 33 ». C'est-à-dire c'est insupportable une telle élévation. Bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions, trop de questions urgentes, et que par conséquent, pourrions peut-être arrêter notre soirée. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, avant que nous nous séparions, je voudrais simplement vous faire part de la parution ces jours-ci à la petite bibliothèque de l'âge d'or d'un livre qui s'appelle « Éloge de la poésie » d'une poétesse russe contemporaine qui s'appelle Olga Sedakova. Je pense que tous ceux qui ont un petit peu, parce que ça aussi j'ai oublié de dire, nous avons tous oublié de le dire, cette correspondance n'arrête pas de parler de poésie. Le livre de Olga Sedakova est un livre où il est vraiment question de poésie.